Personne. Alors les physiciens, alors là c'est quand même, surtout je sais qu'il y a un physicien dans la salle, donc il va peut-être trouver que j'y vais un peu fort. Néanmoins, vous savez qu'en physique des particules, tout est probabiliste. Hein? Quand une particule, au bout d'un petit canon à proton, j'envoie un proton dans la salle, au moment donné je mesure où il est dans la salle, eh bien en réalité on ne peut pas être sûr de le trouver à tel endroit, même si on connaissait quelque chose comme sa vitesse au départ, c'est probabiliste. Et puis c'est comme ça. Alors c'est comme ça, sauf que il y avait des grands savants qui ont dit ça ne peut pas être probabiliste. Oui, il faut quelque part qu'il y ait vraiment des règles. Et en fait, nous on dit que c'est probabiliste parce qu'il nous manque. Il y a des variables cachées, vous voyez, il nous manque des éléments pour décrire la réalité. Et donc, comme il nous manque des éléments pour décrire la réalité, on a l'impression que c'est du hasard. Mais ce n'est pas du vrai hasard. Quelque part, c'est déterminé. Et c'est là que les physiciens sont extraordinaires, c'est qu'ils ont réussi à proposer un design expérimental pour réfuter cette hypothèse, qu'il existe des variables cachées. Et ça a été réfuté. Donc il n'existe pas de variable cachée. Donc en fait, quelque part, c'est une limite à l'approche scientifique. C'est que on décrit en physique des particules la réalité comme étant une réalité probabiliste. Eh bien, on a montré que c'est vrai, qu'on pourra pas, que ça sera toujours probabiliste. On ne pourra jamais aller au-delà dans notre façon de décrire la réalité physique microscopique. À moins d'envisager des révolutions monstrueuses, naturellement. Et puis le troisième point, c'est en économie. En économie, alors il y a un théorème d'Arrow qui a valu un prix Nobel d'économie qui dit qu'on ne peut pas faire de lien entre des choix collectifs et des préférences individuelles. Alors ça veut dire quoi? Quand on vote aux élections présidentielles, vous savez, dans tous les pays, on ne vote pas de la même façon. Nous, on vote avec deux tours. Ceux qui ont les résultats les plus élevés vont au second tour et après c'est celui qui a le plus qui est élu président. Mais il y a des pays où ça ne se passe pas comme ça, où on pourrait dire, ben, c'est d'emblée au premier tour celui qui a le plus qui est élu président. Alors, est-ce qu'il y a une façon rationnelle de rassembler des choix individuels, donc des votes? Est-ce qu'il y a une façon optimale de rassembler des choix individuels de préférence individuelle en un choix collectif? C'est un très beau, c'est une très belle question de démocratie. Eh bien, M. Arrow a démontré que c'était impossible. C'est-à-dire que quand vous disposiez de votes au premier tour d'une élection présidentielle en France, il n'existe aucune façon d'agréger ces votes de façon cohérente en un choix collectif qui va refléter de façon optimale les préférences individuelles. Alors ça veut dire quoi optimal? Ça veut dire que ces choix collectifs vont être transitifs, c'est-à-dire que si globalement la société a préféré le candidat A au candidat B et le candidat B au candidat C, alors elle va préférer le candidat A au candidat C, ce qui est logique. Un deuxième truc, c'est qu'imaginons que entre le vote et la déclaration du vote, il y a un candidat qui meurt, il faut qu'en enlevant le candidat de tous les votes des Français, on retrouve le même classement des candidats dans le choix collectif. Ça aussi, c'est raisonnable. Et donc, vous voyez, moyennant ces quelques hypothèses, il a démontré qu'il n'y avait pas, on ne pouvait pas passer de préférence individuelle à un choix collectif. Et donc, en fait, toute désignation d'un président de la République est entachée d'une certaine irrationalité. C'est un très très beau résultat. Alors vous voyez, c'est un très beau résultat scientifique qui pointe des doigts quelque part une limite à l'approche rationnelle des questions que se posent les hommes. Bon, alors revenons-en et concluons là-dessus. Revenons-en à notre question à la santé mentale. Je crois que bon, on a vu ces questions des logiciens, des physiciens des particules, des économistes. Ce sont des questions extraordinairement sophistiquées. En psychiatrie, on en est bien loin de ça. On en est bien loin. Alors, essayons de donner une réponse à cette question. Alors, est-ce qu'il y a des limites à l'approche scientifique dans la recherche en santé mentale? Et là, il faut quand même arriver à la définition de qu'est-ce qu'une approche scientifique. C'était par là qu'il fallait commencer. Qu'est-ce que c'est qu'une démarche scientifique? Et là, il y a un quiproquo. Hein. C'est, vous savez, la définition a été donnée par Popper, je donne le nom parce que ça c'est aussi une vulgate. Alors tout le monde n'est pas d'accord, naturellement. Il y a une épistémologie après Popper, et je suis tout à fait d'accord. Néanmoins, quand même, dans notre société aujourd'hui, la science fonctionne sur cette base. C'est-à-dire, c'est la formulation d'hypothèses réfutables par des expériences reproductibles. Voilà, c'est... On est un peu d'accord. Alors, là-dedans, tout de suite, on va trouver des limites. Ah oui, mais alors, en santé mentale, rien n'est reproductible. Donc, oui, mais en fait, quand on lit vraiment ce qu'écrivait Popper, la reproductibilité n'est pas un problème, puisqu'en fait, rien n'est vraiment complètement reproductible, même en physique. Rien n'est jamais tout à fait pareil. Et en fait, son idée, c'est de dire... D'ailleurs, son idée était écrite... C'était pas en français, hein, naturellement, mais c'est écrit en termes très simples. C'est de dire, voilà... Ce qui compte, c'est une expérience, c'est-à-dire la science, c'est des observations. Des observations minutieuses, qui prennent beaucoup de temps. Et d'ailleurs, vous voyez, Poincaré disait un truc très bien sur la méthode scientifique. Il disait, si le savant disposait d'un temps infini, il suffirait de lui dire, regardez et regardez bien. Mais comme on ne peut pas tout regarder, et qu'il vaut mieux ne pas regarder que de mal regarder, alors il faut choisir. Eh bien ça, c'est exactement la démarche scientifique, c'est exactement ça. On regarde ce que l'on a en face de soi, et il faut choisir ce que l'on va regarder, parce que si on regarde tout, alors c'est tout est confus, quoi. Sauf avec la perception globale et intuitive. Mais du coup, on ne sait pas quoi en faire après. Alors que le scientifique, effectivement, il va prendre un angle d'approche. Alors, quand il dit un angle d'approche, c'est une expérience. Mais une expérience, ce n'est pas forcément avec des éprouvettes et tout ça, hein. Une expérience, ça peut être très bien un psychanalyste qui écoute un patient avoir un processus associatif en lui posant une question standardisée, c'est-à-dire comment allez-vous aujourd'hui et je vous écoute, il s'assoit et le patient associe. C'est une façon de voir sous un angle bien particulier. Vous voyez, ça ne ressemble pas à une recherche scientifique avec une blouse blanche et des éprouvettes. Donc ça, c'est d'abord regarder et réfuter. Voilà, ça c'est la base de la science. Quand vous dites quelque chose, vous avez fait votre observation. Quand vous l'écrivez, vous dites voilà, j'ai observé quelque chose comme ça. Il faut qu'on puisse vous dire, attendez, moi je ne suis pas d'accord, d'abord c'est douteux ce truc-là, et puis je ne suis tellement pas d'accord que je vais refaire votre manip pour montrer qu'en fait vous avez mal travaillé, que vous avez trouvé n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'il faut que ça soit un peu reproductible, parce que si ce n'est pas reproductible du tout, vous ne pouvez jamais réfuter. Hein? Si vous dites j'ai vu un extraterrestre, je l'ai vu, il était habillé d'un costume brillant, il avait trois yeux, etc. Je l'ai vu, c'est une observation, je le décris précisément, mais c'est pas réfutable parce que c'est pas reproductible. Vous dites ah oui, mais alors comment vous faites pour le faire venir? Et donc ah mais je sais pas, il était juste là, je l'ai vu. Ben certes, vous pouvez le dire, mais on peut rien faire de ça. On peut dire quelqu'un a vu un extraterrestre et il l'a vu comme ça. Voilà, c'est un essai, on le collige, mais vous voyez que c'est limité. Tant qu'on ne peut pas réfuter ce que quelqu'un dit, c'est limité. Alors, c'est pas parce qu'on ne peut pas réfuter que ça n'a pas de sens, que ça ne vaut rien. Quand j'ai parlé de poète tout à l'heure, Henri Michaud, il a dit quelque chose. Alors, encore qu'on pourrait le réfuter, vous voyez, on pourrait aussi prendre de la mescaline et puis regarder si on a bien la même chose. Mais peu importe. Moi, ça me suffit, et ça c'est l'histoire du mythe, ça me suffit que quelqu'un dise, tiens, ben voilà, j'ai eu cette expérience et voilà les mots que j'ai utilisés pour le dire. Et ça me fait telle impression, d'accord, c'est une façon d'acquérir des connaissances. C'est pas la façon qu'utilisent les scientifiques. Les scientifiques, ils veulent pouvoir réfuter. Et quelque part, personnellement, je trouve que cette approche est raisonnable. Alors, elle est raisonnable, on revient, y a-t-il des limites? Il y aurait-il des limites à un savoir qui naîtrait d'observation et... de conclusion réfutable? Est-ce qu'il y a des limites à ça? Est-ce qu'il y a des limites à l'approche où l'on peut réfuter? Eh bien, je n'ai pas trouvé de travaux qui disent qu'il y a des limites à cette approche. Alors, certes, alors, dire, l'existence de Dieu, bon, c'est pas réfutable, mais... D'accord, mais encore une fois, ça ne me gêne pas qu'il y ait des limites à l'approche expérimentale, scientifique, si c'est pour donner des réponses à des questions qui sont avec ce niveau de non-réfutabilité. Alors, néanmoins, et là on revient tout début de la présentation, néanmoins, quand même au quotidien, on a vraiment l'impression que ce que nous disent les neuroscientifiques, il y a quand même des limites par rapport à ce que l'on voit avec nos patients. Donc, nous, pourquoi alors, dans notre vie quotidienne, on voit qu'il y a des limites, alors que quand on regarde en termes épistémologiques, on a l'impression qu'il n'y en a pas? Parce qu'on confond l'approche scientifique avec les théories scientifiques. C'est qu'un scientifique a une approche scientifique, il fait des expériences et il écrit des papiers réfutables, ça c'est l'approche scientifique. Et puis après, il y a les théories scientifiques, où toutes ces connaissances, tous ces résultats d'expérience, on les intègre dans une construction que l'on appelle une théorie. Et bien entendu que ces théories, qui sont des représentations du monde qu'elles étudient, alors les théories neuroscientifiques sont des représentations du fonctionnement psychique de l'homme. Représentation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle jette une espèce de filet sur cette construction informe que nous, on appelle vie psychique. Donc les neurosciences jettent un filet dessus avec des mailles bien propres qui se correspondent à ce système symbolique, ce tissu d'observation réfutable et reproductible. Mais ce sont des mailles. C'est-à-dire qu'il y a des trous dans les mailles, et il y a même des endroits où les trous sont très importants. Et ça correspond au fait que, naturellement, les théories scientifiques ne peuvent jamais prétendre tout représenter. Cela va sans dire. Alors cela va sans dire, sauf que, il faut être honnête, certains neuroscientifiques, certains scientifiques sont tellement au quotidien emprisonnés, enfin ils s'emprisonnent eux-mêmes, vous voyez, quand on est tous les jours passionné par son travail de scientifique, que l'on passe 70 heures par semaine à faire des manips, à écrire des papiers, etc., à la fin, on voit la vie psychique comme on la pense avec sa théorie scientifique, et on a l'impression que la réalité de la vie psychique, elle est comme ce que sa théorie l'a décrit. Et effectivement, ça correspond au malaise que l'on a quand certains neuroscientifiques présentent leurs travaux en les décrivant comme étant l'accès à la réalité. On a trouvé comment fonctionnait le cerveau, on a trouvé quels étaient les problèmes qu'avaient les patients schizophrènes, c'est un déficit de contextualisation, etc. etc. Et c'est là qu'effectivement ça ne va pas. C'est que, on devrait dire, j'ai fait des expériences, ces expériences me permettent de proposer des interprétations pour représenter d'une certaine façon ce que vivent les patients et ce que moi, et ce que l'on peut percevoir comme étant la vie psychique d'un patient. Et bien sûr que ces représentations ont des limites, et bien sûr que quelque part, c'est aux scientifiques à les mettre en avant. Et normalement, dans la discussion d'un travail scientifique, il y a ça. Il devrait y avoir toutes les limites, au-delà des limites inhérentes à la théorie, toutes les limites, surtout quand on parle de patients. Hein, parce que les patients existent, ils ne sont pas que des représentations théoriques issues de travaux scientifiques. Donc, c'est là que je pense qu'il y avait le quiproquo initial. Je pense d'un côté que il n'y a pas vraiment de limite à l'approche scientifique. Il n'y en a pas vraiment. Alors on peut, bien sûr, l'existence de Dieu, tous ces trucs-là, d'accord, on peut dire qu'il y a des limites à l'approche scientifique, mais en ce qui concerne la santé mentale et les problèmes que nous avons aujourd'hui, il n'y a pas de limite à l'approche scientifique. Et on peut avoir une approche scientifique dans la psychanalyse, dans l'anthropologie, dans la sociologie, dans les neurosciences, en psychopharmacologie, c'est-à-dire avoir une approche où on observe les choses avec précaution et où quand on décrit nos résultats, on se prête à la réfutation. Voilà. Et en faisant ça, on a une approche scientifique expérimentale. Ni plus ni moins. Par contre, après, effectivement, il y a des limites aux théories scientifiques. C'est évident et on ne le dit jamais assez fort. Je vous remercie pour votre attention.
Ben merci Bruno. C'est sûr qu'à dire qu'en respectant le sens des mots, approche scientifique, oser dire, et tu nous le démontres, qu'il n'y a pas de limite, c'est très moteur pour la fédération qui t'écoute. Pour son premier anniversaire, c'est un message d'espoir et un aiguillon formidable, hein, formidable. C'est aussi une mise en lumière, hein, pour faire le pont avec la remise des prix de la Fondation Pierre Ourier, puisque vous avez noté dans la salle les liens qu'il pouvait y avoir avec un passage de ton exposé, hein, quand tu parlais de connectivité, hein, de connectique, avec le travail que Renaud Jardry va entreprendre, hein, sur ce que peut nous apporter l'état des connaissances en intelligence artificielle, hein, dans la modélisation de tout ça. Donc tu mettais tout ça en lumière, c'était tout à fait formidable. Dans la salle, y a-t-il des gens qui...